Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Et là, bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur parole, un tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement chef du gouvernement.
Eh ben dis donc, Anna, tu as une sacrée bibliothèque. Il y a au moins 676 livres. Oh, mais il y en a un très beau là-haut, il y en a un très beau. Attends, je vais le prendre. Il est lourd. Hein. Oh, il est plein de poussière, il est bien abîmé. Ah oui. Il a servi le livre sali.
Bonjour à tous et à toutes, auditeurs, auditrices de Civis Pacem, comme tous les jeudis de chaque mois. Nous rendons toujours hommage à Gérard Durand, qui nous a quittés, et que Elsa et moi, Elsa, bonjour.
Bonjour, papa.
Nous reprenons son émission. Là, nous avons des choses très percutantes à vous faire entendre. Déjà, Elsa va vous faire la suite d'un gros dossier que l'ICAN nous avait envoyé.
Oui, suite et fin, plus exactement.
La suite, parce qu'il y a encore un troisième morceau.
Ah, oui. Donc, correction, désolé, chers auditeurs, donc suite.
Une suite, oui. Mais tenace. Voilà.
Oui. Elle sera entrecoupée de pauses musicales. Oui, oui. Ne vous inquiétez pas, histoire de reprendre votre souffle, moi aussi.
Ah, oui, parce que c'est dur, non seulement de le lire, mais d'encaisser après le choc qu'on a dans l'estomac.
Oui. Voilà. Vous ne pourrez pas voir les vidéos, mais les descriptions sont tellement réalistes que c'est comme si vous n'aurez aucune peine à fermer les yeux et à les visualiser.
Voilà. Donc, Elsa, si tu veux lancer la première plume de la paix, vu que c'est l'Union pacifiste.
Oui.
Vous pouvez nous appeler, excusez-moi, pendant les pauses musicales, au 01 43 71 89 40. Mais pendant les pauses musicales, impérativement.
Oui, si vous voulez qu'on vous réponde, oui. C'est mieux.
C'est bien. Bon, à toi, Elsa.
Sous le sable des déchets. Alors, l'armée française s'est installée à partir de 1957 sur le site de Reagan, puis de Hinecker et les a quittés en 1967. À sa suite, l'armée algérienne a pris possession d'une partie des installations non déconstruites, telles la base de vie In Amgoel, constituée de baraquements, de bâtiments en dur, etc. Entre 1992 et 1995, l'armée utilisa de nombreux baraquements des sites de In Amgoel et de Reagan comme prison pour toute personne liée au Front islamique du Salut, parti d'opposition islamiste. Ces révélations ont été faites par la réalisatrice Elisabeth Levray et le journaliste Bruno Hadji dans le documentaire Atome, A-T-H entre parenthèses, O-M-E, producteur Les Écrans du Large, 2016. Oui, Les Écrans du Large, 2016. De même, la Société nationale de recherche et d'exploitation minière, Sonarem, s'y est implantée. Il faut dire que cet espace géographique est idéal pour la surveillance du territoire, avec notamment la route transsaharienne qui relie la frontière du Niger à Tamanrasset, puis se poursuit en direction du nord et longe la montagne du Tan Afela, avec ses zones fortement contaminées. Les derniers mois de la présence de soldats français ont été pleinement consacrés au démontage des sites et au rapatriement de matériel militaire en direction de la France ou à destination de pays africains. Du matériel militaire fut également cédé aux autorités algériennes. Près de 60 ans après ce retrait, après le séjour de plusieurs milliers d'hommes, certains sites ont l'apparence de vastes décharges avec la présence de déchets qui peuvent être classés en trois catégories. Alors, des déchets non radioactifs liés à l'installation française, au démantèlement des sites et à la présence de l'armée algérienne depuis 1966, du matériel contaminé par la radioactivité qui a été volontairement enterré, des matières radioactives issues des explosions nucléaires. Alors, on va commencer par les déchets non radioactifs. Tous les acteurs, journalistes, chercheurs scientifiques, tels que Larbi Benchita, journaliste, Roland Desbordes, scientifique membre de la CRIRAD, Bruno Barillo et Patrice Bouveret, chercheurs et directeurs de l'Observatoire des armements, qui se sont rendus sur les sites d'essais nucléaires depuis une quinzaine d'années, rapportent des témoignages similaires concernant la présence de nombreux déchets, c'est-à-dire bidons de bitume, aluminium, tôle, etc. Ainsi, Bruno Barillo, qui visita le site de Reagan du 13 au 19 novembre 2007, rapporte que les abords de la route en contrebas qui conduit à l'entrée du CSEM témoignent d'un manque flagrant de respect de l'environnement. Des centaines de fûts métalliques, probablement de bitume, ont été, depuis les années 1960, abandonnés là, sur un vaste espace simplement entouré de barbelés. Une grande partie de ces déchets sont sans aucun doute issus de la période de la présence de la France. Mais il ne peut être exclu qu'une partie soit aussi le résultat de l'occupation par l'armée algérienne. Il ajoute que les anciennes installations du commissariat à l'énergie atomique, qui se trouvent en contrebas de la falaise de Reagan Plateau, montrent de nombreux vestiges, câbles électriques, ferrailles, tuyaux, conduites d'eau jonchent le sol sur quelques hectares. À ces déchets, qui reposent sur le sable et peuvent être enlevés assez facilement, il faut rajouter deux énormes blockhaus, le poste de commandement avancé et un second surnommé le Sphinx, qui abritait principalement des instruments de mesure. Ces bâtiments demanderaient de plus gros moyens pour être déconstruits. Et la photo que je ne peux pas vous, enfin que vous pouvez pas voir, chers auditeurs, montre en effet que le bâtiment est énorme et est en partie enfoui sous le sable. Même si ces récentes descriptions indiquent toujours la présence de déchets, ceux-ci tendent à diminuer fortement. Cela tient principalement au fait que les populations vivant dans ces zones ou les traversant ont récupéré au fil des années les éléments ferreux pour réaliser des clôtures, toits de maison et autres constructions, et le cuivre, métal ayant une forte valeur à la revente. Des dizaines, voire peut-être des centaines de kilomètres de fils de cuivre furent utilisés pour mener à bien les essais nucléaires. Certaines sections étaient largement enterrées, alors que d'autres étaient posées sur le sable et sont fortement radioactives. Les témoignages sont nombreux sur les personnes qui allaient récupérer ce cuivre, tel Mustapha Dim Amgel, qui raconte que la plupart des barbelés ont été arrachés par les trafiquants de cuivre qui viennent du côté de Béchar et l'ont vendu au Maroc. Ils ont volé les installations électriques irradiées pour récupérer le cuivre. Je connais des vieux Amguel, de gros commerçants qui viennent jusqu'à Béchar. Ils remplissent les citernes d'essence de cuivre pour avoir des camions de transport. Ils les amènent à Adrar et Béchar pour les revendre aux commerçants marocains. Nous pourrions croire que ces récupérations de métaux sont terminées depuis longtemps, mais là aussi, des récents témoignages venant de conversations avec Roland Desbordes, scientifique, alors président de la CRIRAD, qui visita Ineker en 2007, et Larbi Benchia, journaliste, réalisateur de plusieurs documentaires sur les essais nucléaires, qui s'est rendu à plusieurs reprises sur les sites du Sahara, indique que ces actions se poursuivent. Voilà, sans aucun doute, une grave erreur faite par l'État français. En ne récupérant pas et en ne donnant aucune information sur les dangers sanitaires potentiels de ces déchets, il est certain que des populations ont été contaminées après la fin des essais. Et pas seulement Sahara, Maroc, et les vendeurs marocains qui ont revendu ce cuivre. Ayez une idée de la filature de personnes contaminées.
Et, ça fait tout un serpent.
Tout un serpent. Sans compter s'il y a les clients venus d'Europe qui achètent le cuivre, les clients canadiens, les clients américains, les clients asiatiques. Voilà des personnes qui sont susceptibles de se choper des cancers. Donc, avant de passer au matériel contaminé volontairement enfoui dans le sable, une petite pause musicale.
C'était l'oncle Martin, c'était l'oncle Gaston. L'un aimait les tomis, l'autre aimait les teutons. Chacun pour ses amis, tous les deux ils sont morts. Moi qui n'aimais personne, eh bien je vis encore. Maintenant, cher tonton, que les temps ont coulé, que vos veuves de guerre ont enfin convolé, que l'on a requinqué dans le ciel de Verdun les étoiles ternies du maréchal Pétain. Maintenant que vos controverses se sont tues, qu'on sait bien partager les cordes des pendus. Maintenant que John Bull nous boude, maintenant que ça n'est fini des querelles d'Allemands, que vos filles et vos fils vont la main dans la main faire l'amour ensemble et l'Europe de demain. Qu'ils se soucient de vos batailles presque autant que l'on se souciait des guerres de cent ans. On peut vous l'avouer maintenant, cher tonton, vous l'ami des tomis, vous l'ami des teutons, que de vos vérités, vos contre-vérités, tout le monde s'en fiche à l'unanimité. De vos épurations, vos collaborations, vos abominations et vos désolations, de vos plats de choucroute et vos tasses de thé, tout le monde s'en fiche à l'unanimité. En dépit de ces souvenirs qu'on commémore, des flammes qu'on ranime aux monuments aux morts, des vainqueurs, des vaincus, des autres et de vous, révérence, parler, tout le monde s'en fout. La vie, comme dit l'autre, a repris tous ses droits. Elles ne font plus beaucoup d'ombre, vaut de croix. Et petit à petit, vous voilà devenus l'art de triomphe en moins des soldats inconnus. Maintenant j'en suis sûr, cher malheureux tonton, vous l'ami des Tommy, vous l'ami des Tetons. Si vous aviez vécu, si vous étiez ici, c'est vous qui chanteriez la chanson que voici. Chanteriez en trinquant ensemble à vos santé, qu'il est fou de perdre la vie pour des idées comme ça qui viennent et qui font trois petits tours, trois petits morts et puis s'en vont. Qu'aucune idée sur terre est digne d'un trépas, qu'il faut laisser ce rôle à ceux qui n'en ont pas. Que prendre sur le champ l'ennemi comme il vient, c'est de la bouille pour les chats et pour les chiens. Qu'au lieu de mettre en joue quelques vagues ennemis, mieux vaut attendre un peu qu'on le change en ami. Mieux vaut tourner cette fois sa crosse dans la main, mieux vaut toujours remettre une salve à deux mains. Que les seuls généraux qu'on doit suivre au talon, ce sont les généraux des petits soldats de plomb. Ainsi chanteriez-vous tous les deux en suivant Marlboro qui va en guerre au pays des enfants. Oh vous qui prenez aujourd'hui la clé des cieux, vous les heureux coquins qui ce soir verrez Dieu. Quand vous rencontrerez mes deux oncles là-bas, offrez-leur de ma part, c'est ne m'oubliez pas, c'est de myosotis fleuri dans mon jardin. Un petit forget me not pour mon oncle Martin, un petit forgive my niche pour mon oncle Gaston. Pauvre ami des Tommy, pauvre ami des Tetons.
Eh oui, tonton Georges.
J'ose dire, Dieu, que tu me manques, tonton Georges.
Tout à fait. À suite.
La situation radiologique des différents sites n'a jamais, au vu de l'information actuellement disponible, été pleinement établie avec les autorités algériennes. Ainsi, Mohamed Benjebar, officier du génie responsable de la prise en charge du démantèlement de la base de Reagan, a appris en mai 1967, en raison de la sympathie et de l'esprit de corps qui semble le relier à son homologue français, que l'autorité française avait procédé à l'enfouissement de matériel, outillage, moyens mécaniques ayant servi et susceptibles d'être contaminés sur deux sites, le premier à 10 km au nord-est du plateau de la base vie, le second à 5 km du point zéro. Quant aux autres déchets hautement radioactifs, ils auraient été placés dans des bunkers bétonnés. Cette information confirme non seulement l'enfouissement massif de déchets nucléaires, mais montre plus généralement qu'il régnait une politique d'enfouissement du matériel radioactif. Si les règles de sécurité étaient peu contraignantes à cette époque, le CEA disposait tout de même d'installations de stockage en France. Il faut relever que la France s'est toujours gardée d'évoquer ce sujet et plus surprenant que l'AIEA n'a fait aucune mention de ces matériaux contaminés à la suite de sa visite en 1999. Les témoignages ci-dessous font ressortir le fait que ces opérations ont pour la plupart été réalisées avec certaines précautions, comme l'enterrement des avions vautours, laissant penser que les militaires, et sans doute plus spécifiquement la direction des applications militaires du CEA, disposent des plans de dépôt. Le témoignage de Jean-Pierre D., présent à Reagan entre le 17 novembre 1960 et le 21 février 1962, montre bien cette facilité de cacher dans le désert. Donc, dans sa lettre datée du 6 septembre 2002, qui se trouve aux archives de l'Observatoire des armements, voici ce qu'il dit. Affecté au bureau du matériel comme dactylo, je tapais les notes de service et les états du matériel. Lorsqu'un homme travaillant sur un échafaudage laissait tomber un marteau ou un tournevis, il était souvent impossible de le retrouver dans le sable. Tout ce qui était perdu était ainsi classé, enfoui dans le sable. J'avais bien remarqué que souvent des objets d'une taille importante et quelquefois énorme étaient ainsi classés, enfouis dans les sables. J'ai ainsi compris que des engins de terrassement étaient du matériel contaminé qui était volontairement enfoui dans les sables. La note du groupement des essais R, datée du 8 juin 1961 ci-dessous, relative à la contamination d'outillage, vient confirmer un acte qui apparaît alors être normal pour, aussi bien comme l'explique Jean-Pierre D, du matériel de très petite taille, tournevis, que pour des véhicules entiers. Cette politique semble reposer sur l'idée selon laquelle le désert absorberait tous les déchets. Une connerie, vraiment. André F. précise qu'en 1963, tous les avions, canons, camions, hélicoptères étaient restés sur le champ de tir depuis la dernière explosion, Gerboise verte, 25 avril 1961, en attendant d'être enterrés. Donc, information apportée dans une interview téléphonique le 6 février 2004 entre M. Foudria et Bruno Barillo, chercheur à l'Observatoire des armements. Le fait d'avoir ainsi laissé sur le site de Gerboise verte pendant 2 années complètes ces véhicules exposés délibérément aux explosions nucléaires confirme qu'il n'existait pas de directive précise concernant leur sort, outre celui de les enterrer.
Folie douce. Folie douce. Le désert algérien contaminé pour des siècles.
Oui, oui. Ainsi que tout, les animaux, les animaux qui passent, qui traversent dans les migrations. Par exemple, je dis un exemple, les girafes. Les girafes qui traversent des êtres solitaires, mais qui traversent des pans de désert entier jusqu'à ce qu'ils arrivent à une oasis verte. Il a été recensé des trouvailles, des photos de corps, de cadavres de girafes. Bah, avec ce qu'on apprend là, faut pas. C'est logique que ces pauvres bêtes. Mon Dieu, on sait de quoi elles sont mortes maintenant. Alors je vais vous lire une note, justement une de ces notes, relative à la contamination d'outillage. Alors. Certaines contaminations s'étant révélées après examen du personnel du GEAR au spectromètre corps humain par M. Chivot, pharmacien du service social et médical de la DAM, il a été procédé à la vérification des boîtes à outils utilisées par le personnel ayant travaillé sur matériel contaminé. L'outillage suivant, appartenant au sergent Chaumard, s'est avéré fortement contaminé et n'étant plus utilisable, a été enfoui sur place. Signé lieutenant Marcellesi, commandant PVT de la GEAR. Alors, voici une liste de, pour que vous ayez une petite idée du type d'outils contaminés. Alors, une brosse à manche 5 rangs, une clé plate 8-10, une clé plate 9-12, une clé plate 11-13. Alors, une clé à douille 9-32, une clé à douille 10-32, une clé à douille 11-32, une poignée coulisse 9-32, un cliquet réversible 9-32. Alors, je crois que le mot c'est cardan ou cardan 9-32.
C'est un cardan.
Un cardan, d'accord, merci. Une petite rallonge 9.32, une grande rallonge 9.32, une poignée coulissante 3.8, une pince tire-goupille à bec long droite L180, une poignée pour lame de scie, un marteau rivoire, une lime plate douce de 150, une pince extensible L250.
Et cela, c'est juste un échantillon.
Ah oui, oui, un échantillon des tout petits objets.
Parce que non seulement, là, ce sont les outils pour réparer, mais oui. Quand on sait qu'ils ont dû enfouir peut-être des camions,
oui,
ou des avions contaminés, ou plein d'autres trucs, je crois que tu vas... Il y a un petit truc que tu vas en parler là, tout à l'heure.
Bah, oui, oui, justement, c'était cité là, voilà une... je vois des photos de véhicules militaires abandonnés sur le site nucléaire de Hamoudia. Les photos datent de 1963. C'est un sacré gros bolide. Donc, il y a un camion, il y a un hélicoptère. Il y a une sorte de voiture un petit peu jeep et un camion. Je vous prie de m'excuser. Les opérations d'enfouissement sur le site du CSEM auraient débuté au cours de l'année 1963. Je vous prie de m'excuser, chers auditeurs, un chat dans la gorge. Ahou ! Oui. Daniel B., qui a été présent quasiment pendant toute la durée des essais en Algérie de novembre 1957 au 30 mars 1964, mentionne ainsi le 16 septembre 1963 le début des travaux d'enfouissement sur le champ de tir et la destruction de la base d'Amoudia. Un autre témoignage est celui de Lucien V., lettre datée de juillet 2002. Appelé au service militaire, il est affecté au 3e groupe saharien de transport à Reagan. Il sera sur le site au début de l'année 1967, où il participe au démantèlement de toutes les bases de Hogar. Nous avons détruit ou transporté du matériel ou des véhicules. Après que le génie ait creusé d'énormes trous, nous avons enterré nombre de matériels et de véhicules dont la limite de radioactivité était soi-disant passée. Foutage de gueule. Au vu de la description faite par Lucien V., les hommes du génie en charge de creuser d'énormes trous ne devaient pas être en tenue de protection complète contre la radioactivité. Par contre, sur les photos de l'enterrement des avions vautours, que je peux vous voir, mais que vous ne pouvez pas voir, chers auditeurs, les hommes revêtent bien des combinaisons de protection radiologique, soulignant la présence d'une très forte radioactivité. Le procédé décrit par Jacques G. est l'utilisation de bulldozers pour creuser de profondes et larges tranchées dans le sable. Les avions vautours sont détruits à l'explosif avant, comme il le mentionne, un enterrement civil. Ces avions sont sans aucun doute ceux qui ont été utilisés pour enregistrer les différents effets de l'explosion d'une arme atomique. Leur nombre est inconnu. Mais d'autres avions ont-ils aussi été contaminés ? On peut notamment penser aux avions qui ont réalisé différents types de prélèvements dans les nuages formés à la suite des essais atmosphériques. André L., présent à Reagan du 7 février 1960 au 8 mars 1961, mentionne que sur une zone éloignée de l'aérodrome de Reagan, il y avait une zone interdite où était stationné un avion Vampire ou Mistral, cet appareil étant celui qui, radioguidé, avait traversé le matériel radioactif. Il y avait également les réacteurs des vautours qui avaient volé à proximité du nuage radioactif. Si la rumeur est exacte, ce matériel volant était déposé à cet endroit car impossible à décontaminer. Et, citation d'une lettre datée du 12 mars 2003. À ces matériels militaires, il est nécessaire d'ajouter un ensemble d'autres déchets radioactifs, dont les cuves en acier et leur contenu utilisés dans le cadre d'expériences complémentaires, OGIAS. Selon le rapport confidentiel défense sur la zone CSEM, les cuves de pastilles de plutonium furent cimentées et enfouies sous terre. Citation d'un rapport confidentiel défense. Évidemment, il est pris soin d'indiquer que si aucune action de mise au jour n'a été entreprise depuis l'abandon du champ de tir, elle ne représente pas un risque significatif pour les populations et la faune saharienne. Lors de la visite du site de Reagan par Bruno Barillot en 2007, alors qu'il était sur le site de Gerboise Rouge, il nota que des cuves métalliques de grande dimension se trouvent là, entourées de dizaines de boules de béton de la grosseur d'un ballon de foot et dispersées alentour en plein désordre. Ces cuves furent-elles utilisées lors des expériences OGIAS ? Enfin, il faut noter que l'accident de Béryl obligea à procéder à la décontamination, selon un décompte du ministère de la Défense, de 1675 personnes et de 120 véhicules et autres matériels. Une partie du matériel a également été enfouie dans les sables. Ainsi, selon les éléments relevés à propos de cet événement, 400 kg d'effets militaires sont expédiés à Reagan pour décontamination. Ces effets ne seront pas tous décontaminés et certains devront être enfouis G-O-C-S-E-M. Les zones de Hamoudia et plus généralement de Reagan ne sont malheureusement pas les seules zones où du matériel radioactif a été enterré. D'autres témoignages indiquent également que du matériel fut enterré autour de la montagne du Tan Afela. Ainsi, Patrice C., qui appartenait au 621e groupe d'armes spéciales d'avril 1965 à avril 1966, mentionne, suite à une explosion proche de la sortie du tunnel E3, soit probablement après le tir améthyste, la galerie fut fermée par trois portes blindées de 4 tonnes chacune et bourrées de sacs de sable. Après le tir, ils ont tous été retrouvés sur la colline d'en face à environ 100 mètres. Le tout a été enterré sous plus d'un mètre de béton. Et on se demande après d'où vient le dérèglement climatique. Mais ouvrez un petit peu les yeux.
Pas seulement que le dérèglement climatique, tous les tremblements de terre. Parce que oui. chaque explosion, même souterraine, ébranle la croûte terrestre.
Oui, et le tremblement de terre et aussi les éruptions volcaniques.
Oui, c'est ça, oui. Oui.
Les deux.
Et même des tsunamis.
Et les tsunamis aussi. Vraiment, il ne faut pas chercher midi à 14h. Ça me... Et nous ne sommes pas météorologues. Alors, un dernier texte avant de passer la pause musicale. C'est l'océanisation des déchets nucléaires en Polynésie. L'utilisation de la radioactivité dans de nombreux secteurs est à l'origine de la production de déchets radioactifs qui ont la particularité d'émettre des rayonnements pouvant présenter un risque pour l'homme et l'environnement. Ils ne peuvent donc pas être gérés comme des déchets classiques et doivent être pris en charge de manière spécifique. Un des premiers moyens utilisés pour gérer ces déchets et les isoler de l'être humain a été l'immersion dans les océans. Citation d'un dossier thématique de l'Inventaire national des matières et déchets radioactifs, mars 2017. On peut supposer que l'enfouissement de déchets nucléaires dans le Sahara s'inscrivait dans une logique similaire, le désert ayant été vu comme un océan de sable. Cela illustre bien à quel point dans la période 1960-80, les considérations environnementales étaient totalement hors du champ de pensée des acteurs politiques et militaires. La France a immergé, ou océanisé, selon l'expression consacrée, dans le Pacifique, à proximité des atolls de Moruroa et de Ao, entre 1972 et 1982, un total de 3188 tonnes de déchets nucléaires, conditionnés en fûts de béton ou en vrac, sur les sites Hôtel, Novembre et Oscar. Ces déchets résultaient des différentes campagnes d'essais réalisées au Centre d'expérimentation du Pacifique. Suite aux travaux du Grenelle de la mer qui s'est tenu en 2009, il a été décidé de mettre en place une meilleure surveillance et un contrôle plus efficace des zones où se trouvent ces déchets et de consolider l'inventaire des décharges sous-marines de déchets nucléaires, en apprécier la dangerosité et établir des priorités pour réaliser des analyses sur la faune et la flore sédentaire et les sédiments. La réalisation d'un rapport complet sur les déchets radioactifs immergés fut la première mesure mise en œuvre. Cet acte de transparence pourrait servir de modèle dans le dossier des déchets radioactifs du Sahara. Et maintenant, une pause musicale vraiment indispensable avant d'aborder la dernière partie.
Ils étaient usés à 15 ans, ils finissaient en débutant. Les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents, entre l'absinthe et les grands-messes. Ils étaient vieux avant que d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse, laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là à dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir aux champs d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Ils mouraient à pleine peur, miséreux, oui, notre bon maître, couvert de prêtres, oui, notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
C'était Serge Géroyot lors de son en 2020. Quand il y avait déjà le premier confinement, c'était au Triton, il a fait un double concert. Et là, c'est le double album qui est sorti. Donc, il reprend une chanson interprétée par le grand Jacques Brel, qui est vraiment très émouvant. Voilà. Donc, la suite... Attends.
Suite et fin de cette partie. Les déchets nucléaires issus des essais et autres expérimentations. Cette catégorie comprend les déchets, sables vitrifiés, galettes radioactives, qui ont été créés par les différents essais nucléaires atmosphériques, ainsi que par les essais nucléaires souterrains, Beryl 1962 et Améthyste 1963. Des déchets issus de la réaction physique des matières fissiles, contenus dans les dispositifs nucléaires et les éléments situés alentour, en particulier le sable et les objets, tours, engins, etc. Sur la zone du site d'essai atmosphérique d'Amoudia, le sol est couvert de fragments noirs de sable vitrifié qui créent un effet de peau de léopard entre taches de sable jaune et noir. Le site de Gerboise Blanche est particulier car l'explosion a créé un cratère. Cependant, en 2007, selon le témoignage de Bruno Barillot, celui-ci n'est plus visible, ce qui confirme les dires de l'AIEA lors de la visite réalisée en 1999. Mais le rapport de cette institution précise que si le cratère a été ultérieurement comblé, la radioactivité résiduelle est dans les matériaux enterrés sous quelques mètres du point zéro. Source AIEA. La situation sur le site de Hinnecker est sans aucun doute la plus préoccupante. D'une part, la zone est contaminée par les essais en son cœur, mais il existe aussi, selon le compte-rendu d'une réunion de la commission de sécurité ayant eu lieu le 3 octobre 1961, un stockage de déchets radioactifs de roches contaminées extraites des galeries dans le flanc sud du Tan Afela, en un endroit entouré d'une enceinte sommaire. On peut supposer que le CEA détient les documents fournissant une évaluation de l'époque de la radioactivité renfermée dans le massif. Il est évident que les autorités françaises étaient conscientes de la forte pollution engendrée par l'essai raté Béryl. Selon les chiffres, la zone Béryl contaminée à l'origine correspondait à 250 hectares, comprenant 2,5 hectares situés sur le versant du Tan Afela, les fameuses coulées de lave et de scories, des espaces qui n'ont pas été traités et sont certainement en l'état, comme le concède le rapport de 1996 du ministère de la Défense. La commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, CRIRAD, a réalisé une série d'analyses, 29 et 30 octobre 2009 sur ce site, prélevant un morceau de lave qui s'avéra très contaminé et à haut risque en raison d'une forte contamination par le césium-137, ainsi que par la présence d'un transuranien. L'américium-241 qui indique la présence de plutonium-241. D'autres mesures radiométriques réalisées à 1 km de l'axe du tunnel de sortie du tir Béryl pour contrôler le niveau de radiation résiduelle, analyse de crottes de chameau, de cendres de brûlage, justifient les précautions sur le terrain pour limiter l'exposition des populations. Concernant l'essai améthyste qui a donné lieu à un dégagement de matière, il faut noter qu'une décontamination des sols fut réalisée. C'est sans doute la seule et véritable opération de ce genre réalisée par la France dans le Sahara. Cette opération qui s'est étalée sur 6 mois a été réalisée par le 620e groupement des armes spéciales. L'ensemble des témoignages sur cette opération ont été recueillis par Bruno Barillo dans son livre « Les essais nucléaires français 1960-1966, conséquences sur l'environnement et la santé », donc publié aux éditions CDRPC. Il a ramassé les matériels présents, les a nettoyés au Karcher, l'eau étant évacuée dans le sable. Et il a aussi récupéré de l'herbe contaminée. De plus, en terrain plat, les zones les plus radioactives ont été recouvertes d'une épaisseur d'environ 1 mètre de sable. Les zones les plus contaminées ont été raclées sur 5 à 10 cm, recouvertes de matériaux sains, puis goudronnées. Se pose la question du sort des 5 à 10 cm de terre qui ont probablement été enterrés. Il est extrêmement compliqué d'établir un bilan sanitaire pour les populations locales, car à l'époque, il n'y a jamais eu de suivi de santé sur ces populations, ni d'études médicales recensant les cas de cancer, potentiellement dus aux essais nucléaires. À cela vient s'ajouter le faible nombre de dossiers de résidents algériens adressés au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, Steven. Cependant, comme l'ont exposé différentes enquêtes journalistiques, notamment celles de Larbi Benchia et Elisabeth Levray, le nuage radioactif créé par l'accident Béryl a atteint le village de Mertoutek, à une 60aine de kilomètres, où de nombreuses personnes, 17, seraient décédées soudainement à la suite de cet épisode. La population de ce village souffre encore de la présence de la radioactivité. Suite aux expériences complémentaires pollen réalisées sur la zone du CEMO, une zone de 3 hectares proche du point zéro fut recouverte de terre saine, puis fixée au goudron. Les déchets et débris d'installation récupérés sur la zone ont été enfouis dans des tranchées comblées ensuite de terre sainte. La France aurait donc caché des zones extrêmement contaminées. Si les autorités algériennes ont une connaissance partielle des informations, au moins depuis la visite en 1999 de l'AIEA, puis la publication de son rapport en 2005, Concernant le risque radiologique de certaines de ces zones, on constate que rien n'a été fait depuis pour protéger les populations et l'environnement. Donc, suite et fin, le mois prochain.
Vous qui méprisez la jeunesse, vous qui ne savez l'écouter, vous qui ne voyez que les fesses des filles et passez à côté de ce qu'elles ont dans la cervelle, sous leur chevelure mal peignée, se foutant de paraître belle à votre propre désignée. Halte au con. Vous qui qualifiez de loubards tous les taggers et les rappeurs, et pire encore quand ils sont noirs, vous qui souvent en avez peur sans que jamais dans votre tête vous n'entachiez d'un moindre doute cette certitude simplette d'avoir choisi la bonne route. Mort au con. Vous auriez pu imaginer que s'ils se mettent à l'écart de votre monde suranné en vous qualifiant de ringard, c'est peut-être de votre faute. N'en avez-vous la moindre idée? Et votre morale, s'ils la sautent, qu'avez-vous fait pour les aider? Pauvre con. Vous qui vous mettez des œillères pour ne pas voir les sans-logis et dans des oreilles des pierres pour ne pas entendre les cris des torturés, des isolés, des victimes de toutes les guerres, enfants tués, femmes violées, familles expulsées de leurs terres. Honte aux cons. Vous qui mettez dans le même sac drogués, homos, gitans, poètes, et appréhendez leurs attaques quand ils redressent un peu la tête, vous qui vous donnez bonne conscience en pratiquant dans vos églises le culte de l'intolérance sans voir les couteaux qui s'aiguisent. Mort au con. Vous qui méprisez la sagesse de ceux qui possèdent un passé, ceux qui prolongent leur jeunesse sans jamais vouloir l'oublier, vous qui croyez qu'après 30 ans c'en est fini de la gamberge, qui ignorez qu'à 60 ans on peut être plus jeune qu'à 20 berges. Pauvre con! Vous ne mettez pas en question ce piètre confort imbécile d'un petit bonheur sous gestion d'une imagination stérile. Vous êtes des clones de milliers de pauvres cons sur la planète pour qui seuls comptent les billets qu'ils entassent dans leurs cachettes. Honte aux cons! Halte aux cons!
Ce monsieur Michel Valette avait bien raison. C'était un grand copain de Gérard. Il avait déjà invité dans ses émissions précédentes, avant que nous le rejoignions sur l'antenne de Radio Libertaire. Voilà.
Il nous manque aussi.
Oh oui, voilà. Je vais vous lire un texte que m'a envoyé Suzanne, tiré des informations ouvrières, le numéro 753 de la semaine du 20 au 26 avril. Halte à la guerre, la jeunesse ne doit pas être de la chair à canon. Poutine a fait voter le 11 avril une loi facilitant par des moyens électroniques la mobilisation de soldats sera considéré comme réfractaire un citoyen mobilisable s'il a refusé de recevoir sa mobilisation ou s'il n'était pas joignable, indique le communiqué de la Douma. La Douma, c'est le Parlement russe. Au même moment, sur France Info, Zelensky déploie de plus en plus de moyens policiers pour mobiliser de nouveaux soldats. Ça, c'est le côté ukrainien. Les peuples ne veulent pas la guerre. Les jeunes russes ou ukrainiens ne veulent plus être envoyés à l'abattoir sur le front. Que préparent les autres gouvernements européens pour disposer de chars à canon? Notre modèle d'armée est inadapté au contexte stratégique actuel, marqué par le risque d'engagement majeur. L'invasion de l'Ukraine par la Russie offre une fenêtre d'opportunité politique pour repenser profondément ce modèle. Afin de compenser l'absence de volontaires, la solution est historiquement le recours à la conscription, une mesure sérieusement envisagée par plusieurs pays européens. Si le diagnostic d'un besoin de masse afin de générer la puissance militaire nécessaire à la défense des intérêts de la France fait consensus, alors le temps est peut-être venu de revenir à la suspension du service militaire obligatoire décidé par Jacques Chirac. C'est une bonne chose qu'il avait faite à l'époque. Voilà la proposition avancée sur le site rubicon.org. Dépendant et financé par le ministère de la Défense français et canadien. L'auteur précise que rétablir la conscription est sérieusement envisagé dans plusieurs pays européens. N'est-ce pas ce que prépare Macron en France avec la mise en place du service national universel, le SNU ? Voilà où veulent nous entraîner les gouvernements dans leur escalade guerrière. Quand en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie, des députés votent pour l'escalade guerrière, comme l'ont fait des députés du PCF, du PS et Europe Écologie EELV, le 30 novembre dernier à l'Assemblée nationale en France. Alors que quand on voit que le Parti communiste se bagarre contre le nouveau droit pour les retraites, ils auraient dû se mordre la langue ce jour-là, ou s'amputer des mains pour éviter de mettre la petite boule dans le gobelet. Alors attendez, peuvent-ils encore ignorer que les gouvernements Macron, Scholz, Sunak et Meloni sont prêts à envoyer se faire tuer toujours plus de jeunes, aujourd'hui ukrainiens et russes, et demain français. À l'échelle mondiale, de très nombreux gouvernements, sous la pression des populations, n'acceptent pas de se ranger derrière la guerre et le commandement de Biden. Par exemple, le président brésilien Lula a estimé la semaine dernière que Washington doit cesser d'encourager la guerre. Il exprime à coup sûr une volonté profonde en Amérique latine et au-delà de s'opposer à l'impérialisme et à l'OTAN, son bras armé. La députée allemande Sarah Wagenknecht a répondu par un message dans lequel elle affirme qu'il faut se féliciter que le président brésilien Lula appelle les États-Unis et leurs alliés, y compris l'Union européenne, à cesser de soutenir la guerre et à commencer à parler de la paix. Elle a raison. Cessez le feu immédiat, ni Poutine, ni OTAN, pas une arme, pas un homme pour la guerre impérialiste. Et je vous conseille, si vous voulez prendre un abonnement à un petit journal très important, adhérer à Information Ouvrière. Voilà. Je sais que leurs locaux se trouvent à Paris, dans le 10e, rue du Faubourg-Saint-Denis. Mais je ne peux pas vous dire à quel endroit exactement. Mais si vous cherchez, vous mettez dans un moteur de recherche Information Ouvrière au pluriel, Information Pluriel, comme ça, vous trouverez facilement leur adresse. Voilà. Je vais vous lire un autre. Vu que tu as parlé aussi de la contamination, j'ai deux textes sur la continuation qui sont passés aussi dans les anciennes provinces françaises. En Indochine française, sous occupation japonaise ou en cours de décolonisation, les prisonniers de l'armée française détenus par les Japonais puis par les Viet Minh furent traités différemment selon leur grade et selon qu'ils étaient européens, maghrébins, africains, asiatiques et plus tard américains. La réforme de la pensée nationaliste des Japonais, puis communiste du Viet Minh, s'adressa en priorité aux sans-grades et aux troupes coloniales considérées comme plus proches du prolétariat. Mais le taux de succès fut faible car les méthodes employées ou torture physique et psychologique jouaient un rôle central, eurent sur les détenus un impact psychologique traumatisant et causèrent la mort d'un grand nombre d'entre eux. Sur 37 979 militaires français capturés par les Viet Minh, on estime qu'environ 10% des 10 750 survivants ont été réceptifs à leur processus de réforme de la pensée. par des commissaires politiques francophones comme Georges Boudarel. Durant la guerre de Corée, aussi, le lavage de cerveau a été pratiqué par les deux camps. Sur les prisonniers de guerre appliqués par la République populaire de Chine et la Corée du Nord. Le processus de réforme de la pensée a été systématique sur les prisonniers sud-coréens, qui, à en croire la propagande nord-coréenne, ont presque tous reconnu la supériorité du communisme sur tout autre système, mais occasionnel sur les prisonniers occidentaux et turcs. Dans cette seconde catégorie, il aurait alors été constaté que 15% des prisonniers étaient réfractaires à toute forme de rééducation. Les prisonniers en question étaient alors tués pour ne pas compromettre la rééducation des autres. Depuis la fin des hostilités en Corée du Sud, des prisonniers politiques communistes détenus par le régime militaire sud-coréen, dont plusieurs depuis la guerre de Corée, comme Ri In-mo, ont été soumis après 1973 à une conversion forcée impliquant le retour à la torture en vue de leur faire renier leurs convictions. Un film, Un crime dans la tête, met en scène une personne manipulée de la sorte. Terrible. Et un petit texte que nous a envoyé Serge et Monique de Trou Noir, parce qu'ils parlent beaucoup sur les trucs nucléaires. La recherche d'un lieu d'enfouissement pour la poubelle nucléaire par l'Association nationale de la gestion des déchets radioactifs, le ANDRA, ayant rencontré de fortes résistances dans divers lieux de l'Hexagone en 1994, ce sont les villages de Bure, Saudron, Bonnet, Mandre et Ribeaucourt qui sont choisis pour la construction du centre industriel de stockage des déchets radioactifs, le CIGEO. L'État nucléocrate a jeté son dévolu sur cette zone rurale, éloignée des grands axes de communication et très appauvrie pour une agriculture industrielle qui fait disparaître les paysans et avec eux l'entraide et la vie communautaire. Il faut avoir créé un désert agricole pour bâtir un cimetière du nucléaire. Pourtant, les résistances s'organisent avec l'aide du soutien venu de l'extérieur. En 2004, l'association Bure Zone Libre construit la maison de la résistance dans une vieille ferme. Mais en 2016, après avoir acheté pendant des années des terrains pour disposer des 3000 hectares nécessaires, la CIGEO démarre les travaux dans les bois de Le Juc, sans avoir obtenu l'autorisation de démarrer les travaux et construit notamment un mur de la honte de 3 km. Malgré l'intervention violente de sa milice privée et des gendarmes mobiles, les opposants réussissent à réoccuper la forêt et à fêter mi-août la chute du Bure de Merlin. Ils ont pour objectif de protéger un lieu, de construire des cabanes et des lieux de vie, de tisser des liens pour la lutte en habitant le territoire. Depuis, le combat de paysans, habitants et soutiens doit affronter quotidiennement l'État nucléocrate, sa police et sa justice. Contrôle, arrestation, procès, condamnation, prison. Les innombrables perquisitions, saisies de matériel, filatures, écoute des communications téléphoniques vont permettre de monter de toutes pièces l'accusation d'une association de malfaiteurs lancée en 2018 contre une dizaine d'opposants soigneusement choisis pour tenter de paralyser le travail en commun. Si rêver d'une vie libérée des contraintes du capitalisme et de l'État fait de nous des malfaiteurs, des criminels ou des bandits, alors nous en sommes. Aujourd'hui, le gouvernement tente de relancer la filière nucléaire, se dotant de tout un arsenal législatif permettant d'accélérer la construction de nouveaux réacteurs, en contournant les textes contraignants, parmi construire, loi littorale, délai d'expropriation et attribuant au réacteur une raison impérative d'intérêt public. La résistance à Bure risque de bloquer le plan. Un appel a été lancé, signé notamment par la Fédération anarchiste. 100 000 ans, au pluriel, 100 000 luttes, au pluriel aussi, luttes, 100 000 espoirs, au pluriel, à Paris. Appel à cortège et à grand rassemblement des luttes écologistes et sociales contre le nucléaire, ses bombes, ses déchets et son monde. Ils avaient invité Angèle, une militante particulièrement visée par la répression étatique sur place et qui a parlé de la résistance et des initiatives en cours. Et si vous podcastez sur Radio Libertaire les émissions de Trou Noir qui se passent le lundi après-midi, vous pourrez retrouver la conversation que cette dame a eue avec Serge au micro. Voilà.
C'est trop bonheur, je suis accro, un vrai junkie, il me faut ma dose, président, 5 ans, le pied chant, mais j'ai remis une pièce dans la machine, et jackpot imagine. J'ai gagné une partie gratuite. Allez hop, je remets ça, commence à une assemblée, elle fait quoi ma majorité? Elle s'est tirée, opposition, piège à con. Je vais envoyer Elisabeth Borne faire sa loi. Connaissent pas son super pouvoir. 49-3 c'est réglé vos amendements de gros losers. Députés, vides, déprimés, dégoûtés. I am the king of l'Elysée, fallait pas m'Élysée. Puis à la queen of Matignon. 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3 49-3
vos potions de censure. Motion de censure de se planter.
Solo.
Allez hop les cocos, vous pouvez vous coucher. Enfin c'est marre, faut arrêter de me faire chier. Sinon l'assemblée, je vais vous l'éparpiller. Ça sent pas à...
Eh bien, encore nos goguettes préférées, en trio mais à quatre. Voilà. Donc, Macron, fais attention à toi. Parce que la résistance commence à prendre de plus en plus d'ampleur en ce moment. Je vais, pour continuer toujours dans le... Ça, là, ce ne sera plus nucléaire, mais le nucléaire ou, non, ou la guerre, c'est, ça fait autant de ravages. Hein. Voilà. On a reçu un petit truc du club Mediapart pour le qui c'est un C'est, ça date du 4 avril 2023, donc il n'y a pas. Juste en début de mois. Le projet de loi de programmation militaire 2024-2030, un pas de plus vers une économie de guerre parasite et dangereuse. Pour peser sur le débat public actuellement dépendant d'un discours sécuritaire qui tend à devenir hégémonique, il importe que le mouvement social s'empare des questions de défense et de vente d'armes, exhorte de nombreux acteurs associatifs. Un train peut en cacher un autre. Au moment où la loi sur les retraites requiert l'intention du mouvement social et qu'un énième projet sur l'immigration mobilise les organisations de défense des droits des migrants et migrantes, le gouvernement prévoit de faire voter une nouvelle loi de programmation militaire. Du fait de cette stratégie du choc, ce projet risque de passer inaperçu. Le déficit de contrôle démocratique est accru, puisque l'actuelle loi se poursuit jusqu'en 2025. Sans bilan de ce qui est en cours, dans un contexte géostratégique de plus en plus tendu, l'objectif déclaré est de s'adapter aux risques de conflits interétatiques majeurs, de haute intensité. Ajouté au retrait des corps expéditionnaires du Mali et du Burkina Faso, retrait imposé par les peuples et leurs gouvernements, et à la dénonciation des accords de coopération militaire datant de 1961, cette situation devrait amener à un vrai débat dans le pays. Le président Macron, chef des armées, demande une augmentation qui aboutit en faisant la somme des deux lois 2018-2025 et 2024-2030 au doublement de leur budget et à l'instauration d'une économie de guerre. La hausse budgétaire en Allemagne est inférieure à approximativement 100 millions d'euros. Il est vrai qu'à la différence de la France, ce pays voisin n'a plus d'empire à gérer. Cette option vient en opposition au refus du secrétariat général de l'ONU au moment où Antonio Guterres énonce une priorité de droit à la paix. Une paix dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, l'invasion de l'Ukraine par la Russie inflige des souffrances indicibles au peuple ukrainien et de profondes répercussions mondiales. Attention, cela dit aux deux poids, deux mesures, la cristallisation du monde occidental sur cette guerre n'est pas suivie par le reste du monde, qui s'interroge sur le rôle de l'OTAN depuis la fin de la guerre froide et qui conserve le souvenir de la destruction de pays tels que l'Irak, la Libye, dans l'indifférence générale. Nous devons exiger de nos gouvernements qu'ils prennent les moyens de refuser les politiques de puissance de tous les côtés et de construire un nouvel agenda pour la paix. Et quel bilan tirer des opérations extérieures au Sahel, si ce n'est celui de leur échec à réduire le terrorisme islamique. Cet échec légitime le soupçon d'une stratégie d'occupation pour d'autres motifs, notamment de type économique. Outre le développement de la misère sociale, la politique extra-activiste et prédatrice au Niger, par exemple, met en danger les écosystèmes. La responsable altermondialiste Animata Traoré plaide depuis 2013 pour des négociations avec les fractions rebelles. Ces annonces budgétaires, plutôt qu'à des lobbies militaro-industriels pléthoriques, Thales, Safran, Naval, Group, Dassault et Airbus. Il y en a d'autres aussi. Hein. Lagardère, entre autres. Lagardère est associé et maintenant est racheté par Bolloré, qui lui est un richissime vendeur d'armes aussi. Alors, serait utile pour les chômeurs dont les droits ont été réduits drastiquement dans la dernière période par une éducation nationale, une université et un secteur de la santé de plus en plus en déshérence par le régime des retraites. La loi sur les retraites prévoit que le statut spécial des militaires, comme des policiers, soit maintenu partir plus tôt, à 57 ans, voire 52 pour les policiers. Alors que d'autres régimes sont mis en cause et que d'importants efforts supplémentaires sont demandés aux salariés, hommes et femmes, au nom de l'équité, la légitimité ou non de ce traitement spécifique des secteurs régaliens, spécialistes du maintien de l'ordre et de la défense, est à mettre dans le débat public. Une économie de guerre n'est pas une économie parasite au service de la stratégie unilatérale de l'OTAN et de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'une vision du monde étroitement occidentaliste. Dans une période marquée par le regain des nationalismes, souvent au mépris des systèmes démocratiques, ce serait un choix périlleux. Et comment légitimer ce choix de défense nationale alors que les gouvernements successifs, depuis le mandat Hollande-Le Drian, démultiplie les ventes d'armes, en particulier à des dictatures du Moyen-Orient, responsables de la répression du printemps démocratique arabe ou des guerres meurtrières, Égypte-Arabie Saoudite. Ce choix de production est-il compatible, par ailleurs, avec le principe d'un développement durable qui impose de limiter l'accumulation des biens inessentiels ? Pour peser sur le débat public, actuellement dépendant d'un discours sécuritaire qui tend à devenir hégémonique, il importe que le mouvement social s'empare de ce sujet. Pour le rejet de ce projet de loi de programmation militaire en l'état, dans son objectif budgétaire notamment. Pour la démocratisation du débat public sur les questions de défense et de vente d'armes et une meilleure implication du Parlement. Pour le respect des prérogatives des États africains et l'arrêt des opérations extérieures au Sahel. Pour le soutien à la résistance des peuples contre tous les impérialismes, y compris russes, israéliens, chinois. Parce que les Chinois commencent maintenant à grignoter nos anciens territoires qui étaient à l'époque français, et ils viennent récupérer ce qui reste, diamants, or et autre chose. Pour un débat sur le maintien ou pas de la France dans l'OTAN, la connerie de Sarkozy d'être rentré à nouveau, j'espère qu'il faudra un autre président que Macron pour sortir. Pour un débat sur la défense européenne et le renforcement de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Pour la promotion d'une vraie diplomatie internationale, notamment dans le cadre de l'ONU, qui favorise l'accès à une mondialisation multilatérale et pacifiée. Pour un renforcement des moyens donnés à la résolution non violente des conflits et à la défense civique non violente. Pour l'obtention d'informations sur l'empreinte carbone des dépenses militaires. Pour la reconversion de certaines industries d'armement et de leur personnel, pour que la France soit observatrice des conférences des États signataires du traité international d'interdiction des armes nucléaires, le TIAN, comme marque d'engagement en faveur d'un désarmement nucléaire universel. On va faire une petite pause. Thank you.
dessous la cendre, le feu va tout brûler. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. Voilà que d'autres bras tendus s'en vont strier nos aubes claires. Voilà que de jeunes cerveaux refont le lit de la charogne. Nous allons compter des pendus au couchant d'une autre après-guerre. Et vous saluerez des drapeaux en priant debout sans vergogne. Amis, dessous la cendre, le feu va tout brûler. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. La nouvelle chasse est ouverte, cachons nos rires basanés. Les mots s'effacent sous les poings et les chansons sous les discours. Si vos lèvres sont entrouvertes, un ordre viendra les souder. Des gamins lâcheront les chiens sur les aveugles et sur les sourds. Je crie pour me défendre à moi les étrangers. La vie est bonne à prendre et belle à partager. Si les massacres s'accumulent, votre mémoire s'atrophie et la sinistre marée noire couvre à nouveau notre avenir. Vous cherchez dans le crépuscule l'espérance de la survie. Les bruits de bottes de l'histoire n'éveillent pas vos souvenirs. Amis, dessous la cendre, va tout brûler. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. Ah, je crie pour me défendre à moi les étrangers. La
tiré du spectacle qu'il a fait en 2000 au Triton, Amis dessous la cendre. C'est vraiment pour halte à la guerre et mort au con.
Et pour, de façon à réfléchir sur comment arrêter la guerre, voici deux petits extraits du Pouvoir de Bertrand de Jouvenel. Ces réflexions qui peuvent nous guider si on prend la peine d'y réfléchir. Les hommes saisis par la guerre. Monarchie absolue, guerre dynastique, sacrifice imposé au peuple, ce sont notions qu'on nous a appris à conjuguer, et assez légitimement. Car s'il s'en faut que les rois aient toujours été ambitieux, il pourrait s'en trouver un qui le fût, et alors son grand pouvoir lui permettait d'imposer de lourdes charges. C'est précisément de ces charges que le peuple a cru se débarrasser en renversant le pouvoir royal. Ce qui lui était odieux, c'était le poids des impôts et par-dessus tout l'obligation de fournir quelques conscrits. Combien donc n'est-il pas frappant de voir ces charges s'aggraver dans le régime moderne, de voir surtout la conscription mise en œuvre, non par la monarchie absolue, mais comme le résultat de sa chute. Sous les menaces et la souffrance de l'invasion, observe Taine dans « Les origines de la France contemporaine », le peuple a consenti à la conscription. Il la croyait accidentelle et temporaire. Après la victoire et la paix, son gouvernement continue à la réclamer. Elle devient permanente et définitive. Après les traités de Lunéville et d'Amiens, Napoléon la maintient en France. Après les traités de Paris et de Vienne, le gouvernement prussien la maintient en Prusse. De guerre en guerre, l'institution s'est aggravée. Comme une contagion, elle s'est propagée d'État en État. À présent, elle a gagné toute l'Europe continentale et elle y règne avec le compagnon naturel qui toujours la précède ou la suit, avec son frère jumeau, avec le suffrage universel, chacun des deux plus ou moins produit au jour et tirant après soi l'autre, plus ou moins complet ou déguisé, tous les deux conducteurs ou régulateurs aveugles et formidables de l'histoire future, l'un mettant dans les mains de chaque adulte un bulletin de vote, l'autre mettant sur le dos de chaque adulte un sac de soldats. Avec quelle promesse de massacre et de banqueroute pour le XXe siècle, avec quelle exaspération des rancunes et des défiances internationales, avec quelle déperdition du travail humain, par quelle perversion des découvertes productives, par quel recul vers les formes inférieures et malsaines des vieilles sociétés militantes, par quel pas rétrograde vers les instincts égoïstes et brutaux, vers les sentiments, les mœurs et la morale de la cité antique, de la tribu barbare, nous le savons, et de reste. Encore Taine n'avait-il pas tout vu. 3 millions d'hommes s'étaient trouvés sous les armes en Europe à la fin des guerres napoléoniennes. La guerre de 14-18 en a tué ou mutilé 5 fois autant. Et comment compter maintenant qu'hommes, femmes et enfants sont engagés dans la lutte, comme on le voyait sur les chariots d'Ariovistes ? Nous finissons par où les sauvages commencent. Nous avons redécouvert l'art perdu d'affamer les non-combattants, de brûler les huttes et d'emmener les vaincus en esclavage. Qu'avons-nous besoin d'invasion barbare ? Nous sommes nos propres uns. Survie du pouvoir absolu. Voilà un grand mystère. Les peuples, mis à contribution pour la guerre par leurs maîtres, les rois, n'ont pas cessé de s'en plaindre. Enfin, ils rejettent ces maîtres et alors se taxent eux-mêmes, non plus seulement d'une partie de leurs revenus, mais de leur vie même. Quel singulier revirement ! L'expliquerons-nous par la rivalité des nations qui aurait remplacé celle des dynasties ? Dirons-nous que la volonté du peuple est avide d'expansion, ardente à la guerre, que le citoyen veut payer pour la guerre et aller aux armées, et qu'enfin, nous nous imposons d'enthousiasme des sacrifices bien plus lourds que ceux que nous consentions autrefois de si mauvais gré ? Ce serait se moquer. Averti par le percepteur, convoqué par le gendarme, l'homme est loin de reconnaître dans l'avertissement, dans la feuille de route, un effet de sa volonté, de quelque façon qu'on l'exalte et la transfigure. Ce sont au contraire décrets d'un vouloir étranger, d'un maître impersonnel, que le peuple nomme « il » comme autrefois les esprits malins. Il nous augmente nos impôts, il nous mobilise. Ainsi parle la sagesse du vulgaire. Tout se passe pour lui comme si un successeur du roi disparu avait mené à bien l'entreprise interrompue de l'absolutisme. Si, en effet, nous avons vu croître et l'armée et l'impôt avec la croissance du pouvoir monarchique, si le maximum des effets et des contributions a correspondu au maximum de l'absolutisme, comment ne dirions-nous pas, en voyant se prolonger la courbe de ces indices irréfutables, en voyant se développer monstrueusement les mêmes effets, que la même cause reste à l'œuvre et que, sous une autre forme, le pouvoir a continué et continue sa croissance ? C'est ce qu'a senti Paul Viollet, dans son livre « Le roi et ses ministres pendant les trois derniers siècles de la monarchie ». L'État moderne n'est autre chose que le roi des derniers siècles qui continue triomphalement son labeur acharné. La chambre des machines, constituée par la monarchie, n'a fait que se perfectionner. Ses leviers matériels et moraux sont devenus progressivement capables de pénétrer toujours plus avant dans la société et d'y saisir les biens et les hommes d'une prise toujours plus irrésistible. Le seul changement, c'est que ce pouvoir accru est devenu un enjeu. Ce pouvoir, dit Marx, avec son énorme organisation bureaucratique et militaire, avec son mécanisme compliqué et artificiel, cet effroyable parasite qui recouvre comme d'une membrane le corps de la société française et en bouche tous les pores, naquit à l'époque de la monarchie absolue, au déclin d'une féodalité qui l'aida à renverser. Toutes les révolutions n'ont fait que rendre plus parfaite la machine gouvernementale au lieu de la briser. Les partis qui à tour de rôle luttèrent pour le pouvoir, voyaient dans la conquête de cet énorme édifice d'État la proie offerte aux vainqueurs. Citation du « Le 18 Brumaire » de Louis Bonaparte, est rédigé par Karl Marx.
Comme il est 19h27,
oui,
nous allons finir notre émission et surtout continuer de bien écouter Civis Pacem. Et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez toujours envoyer un chèque pour vous abonner au journal de l'Union Pacifiste. L'abonnement au journal papier coûte 30 euros. Si vous voulez adhérer à l'Union Pacifiste de France, c'est vous rajoutez 25 euros, donc ça fait 55 en tout. Et vous envoyez un chèque à l'ordre de UPF, bien sûr, à l'Union Pacifiste de France, section française de l'Internationale des Résistances. Des résistants à la guerre, boîte postale 40 196 75 624 Paris CEDEX 13 pour que le journal continue à vivre et vous ferez un grand geste de pacifisme pour tous les pacifistes qui viennent à tour de rôle parler pour défendre la non-prolifération des armes, du nucléaire, et surtout ne pas tomber dans le piège du SNU et de ne pas envoyer nos enfants, filles ou garçons, parce que maintenant, même ils recrutent parmi les filles, d'obéir, lever le drapeau avec le petit doigt sur la couture et la main au niveau du béret. Voilà. Donc, nous vous souhaitons une très très bonne
soirée.
Une très bonne soirée.
Et on vous aime.
On vous aime tous de pacifisme. Là, nous allons passer le générique et ensuite il y aura Yves qui fera son émission. Bonne soirée à tous.
Bonne soirée.
Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Et la bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Content devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles.